donnez-moi un F, donnez-moi un T, donnez-moi un R, donnez-moi un F, T, R.
Forstin Radio.
Forstin Radio. La radio qui fauche votre journée.
On commence tout de suite avec un sujet très important pour nous, les jeunes, la sexualité, présentée par Ulysse et Inès.
Mais attends, mais c'est qui Inès?
Mais Inès.
Forstin Radio, la radio qui fauche votre journée.
Et c'est qui la meilleure radio?
C'est nous.
Mais non, tu t'es bourré, c'est Forstin Radio. Ah.
Donc, du coup, pour cette chronique, nous sommes en compagnie de Dorothée, qui est sage-femme. Et donc, du coup, je vous laisse la parole pour poser toutes les questions que vous souhaitez.
Bonjour à tous. Bonjour Inès, bonjour Méline.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être en présence de notre sage-femme préférée, Dorothée. Donc, Dorothée qui est là pour répondre à une interview sur la sexualité des jeunes. Nous savons que certains jeunes qui nous écoutent se posent certaines questions et n'osent pas demander à leurs proches. Donc, nous allons donc essayer de vous aider. Donc Dorothée, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Alors en fait, comme l'a dit si bien Timéo, donc je suis sage-femme et en fait ça fait 20 ans que je fais des interventions scolaires sur le thème de la sexualité, un thème que j'affectionne parce que effectivement avec les jeunes c'est toujours un moment sympa de répondre à leurs questions de manière simple et puis abordable.
Merci beaucoup. Donc maintenant place aux questions. Première question, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que sont les grains de Fordyce?
Alors là, vous m'aviez posé une colle, en fait. Heureusement que j'ai eu les questions avant, parce que du coup, les grains de Fordyce, j'ai découvert en même temps que vous. En fait, les grains de Fordyce, c'est des petits grains, des petits boutons. Alors en fait, c'est issu des glandes sébacées. Oh là là, mon Dieu, c'est un nom un petit peu compliqué. En fait, les glandes sébacées, c'est des glandes qui vont sécréter des petites substances lubrifiantes. Et en fait, on peut trouver ces grains de Fordyce un petit peu partout. Alors, on peut en avoir au niveau de la bouche, au niveau du visage. Mais là, ce qui nous intéresse sur le thème de la sexualité, c'est que ces grains peuvent être évidemment sur les organes génitaux. Donc, on peut en retrouver sur la vulve, on peut en retrouver également sur le pénis. Donc, ça vous fait un aspect un petit peu granuleux, on va dire, du pénis. Ce qu'il faut retenir et ce qui est impératif, c'est de vous dire que c'est jamais associé à une maladie, c'est juste une particularité. Voilà, on est tous différents. Et puis, si vous avez un pénis avec des jolis petits points ou une vulve avec des jolis petits points, et c'est tout. Ça fait une petite variation. C'est sympa. On est tous uniques. En tout cas, c'est pas contagieux. On peut avoir des relations sexuelles sans aucun souci. Il n'y a pas de traitement. Donc, on a ça à la puberté en général. Hein. Ça commence à la puberté. Puis après, voilà, ça reste en général à l'âge adulte. Mais ce n'est pas inquiétant.
Pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre les pénis de chair et ceux de sang?
Oui, alors là, c'est la grande question des garçons. Souvent, le pénis, c'est vraiment la question phare. Entre la taille et puis le pénis de chair et le pénis de sang, c'est souvent les questions qui reviennent. Alors en fait, le pénis de chair, c'est un pénis qui va être souvent grand à l'état de repos. Alors je dis repos à la différence de l'érection. Donc en fait, au repos, on a l'impression d'avoir un membre très important et on est bien content par rapport à d'autres qui vont avoir un plus petit pénis. En fait, il faut savoir qu'en érection, la plupart des pénis font la même taille, c'est-à-dire à peu près 13 cm. C'est la moyenne, on va dire, pour les races caucasiennes européennes. On a d'autres normes. En Afrique, c'est un petit peu plus grand. En Asie, c'est un petit peu plus petit. Peu importe. En tout cas, sachez que le pénis de chair, donc c'est celui qui est grand au repos, lui va moins prendre de taille et de largeur au moment de l'érection. Et à l'inverse, le pénis de sang, qui nous paraît tout petit, lui, il va gagner énormément au moment de l'érection. Et celui-là, c'est le warrior, quoi. C'est vraiment le super-héros des pénis parce que il va surprendre tout le monde. Donc c'est plutôt sympa finalement. Mais vous comparez pas les gars, ça sert à rien. C'est pas la taille qui compte, c'est la façon dont on s'en sert.
Pouvez-vous nous dire pourquoi les filles ont un sein plus gros que l'autre?
Alors là, c'est une question qui m'a assez étonnée parce que moi, des seins, j'en vois pendant mes consultations. On a rarement un sein qui est énormément plus gros que l'autre, mais il faut savoir qu'on n'est pas symétrique et qu'en fait, on a, c'est comme si on parle des testicules, il y en a toujours un qui est plus haut que l'autre, ça c'est normal. Les seins, c'est pareil, on a toujours une petite différence. Chez certaines, on va avoir parfois une taille de différence. Alors, je sais que ça complexe énormément, mais avec les soutiens-gorge qu'on a, il suffit de mettre un petit peu plus de rembourrage d'un côté pour qu'à l'extérieur, ça ne se voit pas trop. Et dans l'intimité, de toute façon, notre chérie nous aime comme on est. Donc, c'est pas grave, soyez pas inquiète d'avoir un sein plus gros que l'autre.
Merci beaucoup. Une question que beaucoup de garçons peuvent se poser. Pourquoi les garçons, est-ce qu'ils ont une érection le matin?
Alors là, pareil, je suis revenue sur mes idées parce que ça a été un sujet de débat quand j'ai eu cette question. Donc en fait, moi, je disais souvent que l'érection du matin, ça permettait de ne pas faire pipi au lit. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve. Alors, c'est une demi-vérité. Faut savoir que quand la vessie est pleine, ça donne souvent une érection. Donc, on peut avoir l'érection du matin pour cette raison-là, c'est-à-dire la vessie étant pleine, comme on n'a pas fait pipi toute la nuit, voilà, on a une érection réflexe. Après, ce qui se dit beaucoup, c'est que en fait, on aurait, je nous inclus comme si j'étais un garçon, c'est pas le cas. Les hommes auraient des érections. Alors, il y en a 3-4 par nuit a priori. Et ouais, finalement, votre zizi dort pas beaucoup. Et en fait, pendant les phases de sommeil paradoxal, donc un sommeil où on est un peu plus agité, il y aurait des érections réflexes dues au fonctionnement du cerveau, tout simplement. Donc, en fait, quand vous vous réveillez pendant une période de sommeil paradoxal, ben vous vous levez, vous avez l'érection. Si jamais vous vous levez sur un moment de temps de sommeil profond, où là, il ne se passe pas grand-chose, ben vous n'avez pas d'érection. Donc, ce n'est pas preuve de quoi que ce soit, mais très souvent, on se retrouve avec une érection le matin, surtout à votre âge.
Pour vous, quel est l'âge idéal pour aller chez le ou la gynécologue ?
Alors déjà, je vous invite à aller voir une sage-femme plutôt qu'un gynécologue, tout simplement parce que c'est en voie de disparition, les gynécologues. Et puis les sages-femmes, souvent, c'est un peu plus sympa. Oh, je dis peut-être ça pour moi. En fait, il n'y a pas vraiment d'âge. En fait, moi, je reçois les jeunes filles quand elles ont une demande de contraception. Donc la contraception, on peut la prendre. On va dire, je reçois des jeunes filles de 13 ans et plus. Mais ça peut être à partir de 13 ans si on a une demande de contraception. Et il n'y aura pas de consultation gynécologique au sens examen gynécologique. Si après, on parle d'examen gynécologique, il faut avoir un examen gynéco quand on a des relations sexuelles. Et pas dès qu'on en a, hein, mais il faut avoir un an à peu près de relations sexuelles pour aller voir un peu ce qui se trame. Et si tout est normal, mais il n'y a pas d'obligation. Et si vraiment vous n'avez pas de relations sexuelles, à 25 ans, quoi qu'il arrive, il faut aller chez la sage-femme ou le gynéco pour commencer à faire des frottis qui permettent de dépister le cancer du col de l'utérus.
Pouvez-vous nous dire pourquoi les garçons ont des boules dans les tétons ?
Alors ça aussi, je me suis renseignée parce que c'est vrai que je connais plus de choses sur les femmes que sur les hommes. Alors j'ai appris qu'à l'adolescence, en fait, les hormones pouvaient provoquer une gynécomastie. Mon Dieu, c'est un nom compliqué. Ça veut dire en fait, il y a un gonflement au niveau du téton et il peut y avoir une petite boule. Alors en général, c'est vraiment quelque chose de tout à fait normal et vraiment lié aux hormones de votre puberté. Ce n'est pas douloureux. En général, la boule fait moins d'un centimètre. Si jamais cette boule perdure plus longtemps, elle est dure, elle est douloureuse, on va consulter le médecin. Mais rassurez-vous, la plupart du temps, c'est vraiment juste lié aux hormones.
C'est une question très importante. Quelle est l'importance du vaccin contre le papillomavirus ?
Alors, le papillomavirus, c'est un virus assez embêtant parce que très résistant et c'est quand même la principale cause du cancer du col de l'utérus chez la femme. Donc en fait, le papillomavirus, il y a des souches qui sont vraiment pas sympas du tout. Et on a trouvé un vaccin qui permet de vacciner contre ces 9 souches qui sont responsables de 90% des cancers du col de l'utérus. Donc une jeune fille qui se fait vacciner, qui va avoir entre 11 ans et 14 ans, 2 doses en 6 mois de temps, va pouvoir éviter à 90% le cancer du col de l'utérus. Donc c'est quand même un truc de dingue. C'est quand même le seul cancer où on a un vaccin. Donc voilà, même si ce n'est pas efficace à 100%, 90%, c'est énorme. On peut aussi se faire vacciner au-delà de l'âge de 14 ans jusqu'à 19 ans, mais là, ça sera 3 doses. Alors, comme le vaccin fait un petit peu mal, je vous invite à faire ça avant l'âge de 14 ans. Dans l'idéal, c'est toujours avant les rapports sexuels, puisque dès qu'il y a un rapport sexuel, on est en contact avec le virus. Les garçons doivent se faire vacciner également, puisqu'il y a des cancers qui sont aussi provoqués chez le garçon, cancer de l'anus, cancer de la bouche, liés au papillomavirus. Et là, même avec une capote, on sera en contact avec ce virus. En général, 8 personnes sur 10 vont être en contact avec ce virus, donc c'est énorme. Il est hyper résistant. Et juste un petit contact, en fait, peau à peau, peut permettre de l'attraper, même s'il y a une capote. Donc du coup, on fait gaffe, on se vaccine, et puis après, on est tranquille.
Pouvez-vous nous dire quels sont les dangers de la pornographie ?
Oui, alors la pornographie, hein, c'est pas comme ça qu'on apprend à faire l'amour, ça se saurait. C'est simplement, alors pour ceux qui connaîtraient pas la pornographie, hein, c'est les films, si des fois on a des auditeurs qui connaissent pas, c'est les films pour adultes où on a des relations sexuelles qui n'ont pas vraiment de sens, où il n'y a pas du tout d'amour. Alors en fait, il faut savoir que regarder des images sexuelles sorties de leur contexte, où souvent il y a de la violence, où il y a une position de la femme qui est vraiment... comment dire, les féministes pourraient dire qu'on est un petit peu comme des objets dans ces films-là, ça a un vrai impact sur le cerveau. Alors, il faut savoir que ça peut provoquer une addiction au même titre que la drogue. Donc, en fait, on va commencer à regarder des films et puis on va trouver ça bien. Ça va sécréter une hormone du plaisir. Donc, du coup, comme à chaque fois qu'on a du plaisir, le cerveau, il en redemande. Donc, on continue à regarder. Sauf que, comme toute drogue, vous allez avoir à un moment donné un effet d'accoutumance. Et donc, il va en falloir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et on en arrive à ne plus avoir de désir pour un partenaire réel. Ce qui veut dire que vous êtes devant votre chéri idéal et en fait, vous n'êtes plus capable d'avoir du plaisir, d'avoir du désir pour lui. Vous allez devoir regarder un film pornographique, revenir après près de la personne et dire « ça y est, je suis prêt, j'ai enfin l'excitation ». Et puis, pour faire l'amour, ça va être compliqué. Donc, il y a un vrai impact sur la vie sexuelle et le devenir sexuel des personnes qui regardent trop la pornographie. Donc, les garçons, hein, vous qui regardez surtout beaucoup la pornographie, franchement, ça s'apprend sur le tas, la sexualité, c'est vachement bien. Et puis, on n'a vraiment pas besoin de ça.
Maintenant, un sujet dont on parle un petit peu plus en ce moment, je trouve, c'est la nymphomanie. Et je voulais savoir, est-ce que la nymphomanie est une maladie qui peut amener à de sérieux problèmes ?
Alors, la nymphomanie, effectivement, est une maladie. C'est un trouble mental avec des comportements sexuels compulsifs. La compulsion, c'est quand on peut pas lutter en fait, contre ce comportement-là. Donc, c'est quelqu'un qui va, par exemple, rechercher la promiscuité, c'est-à-dire un contact proche avec les hommes, être dans la séduction permanente. Alors, je dis, là, j'emploie comme si c'était une femme, parce que très souvent, cette maladie a été associée aux femmes. Parce qu'on sait toutes et tous que les garçons aiment beaucoup la sexualité, et nous, les femmes, soi-disant, on aimerait moins. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Mais ceci dit, la nymphomanie a tout souvent été rattachée aux femmes. Faut savoir que les hommes peuvent être nymphomanes aussi, donc ça va être assez grave parce que ça va nous induire des comportements sexuels à risque. Parce que si à chaque fois je suis en train de rechercher le contact avec les hommes ou avec une femme, forcément il risque d'y avoir des pratiques sexuelles parce qu'il y a ce désir qui est là et on a besoin de se contenter de ça. Il nous faut ce rapport sexuel avec en gros n'importe qui. C'est une pulsion. C'est pas du tout de l'attirance ou quoi que ce soit, c'est une pulsion. Donc oui, c'est plutôt embêtant et en général, ça nécessite des traitements antidépresseurs, anxiolytiques et ça provoque un déséquilibre émotionnel.
Merci beaucoup. On peut souvent entendre ce genre de choses. Pourquoi est-ce que lors de leur premier rapport sexuel, certaines filles peuvent avoir mal, voire saigner ?
Alors, si je prends mon côté féministe, je vais dire que c'est à cause de la société qui a été façonnée par les hommes, de nous dire qu'en gros, on doit rester pur et du coup, attention, ça va faire mal, attention, ça va saigner. Alors, il y a un petit fond de vrai sur le fait qu'on peut éventuellement avoir mal ou saigner parce que, on en parlera sur la question précédente, on est censé avoir un hymen et du coup, ça serait lui qui se rompt et qui peut éventuellement saigner. Si on a mal lors d'un premier rapport sexuel, c'est souvent qu'on a peur et en fait, le corps n'est pas prêt. Donc, un corps qui est prêt, chez la fille, en fait, le vagin, il devient un petit peu plus long, il s'ouvre en corolle, comme on dit dans les bouquins, et puis il va surtout se lubrifier. Si jamais j'ai un rapport sexuel et que je n'ai pas très envie ou que j'ai peur, je ne me lubrifie pas. Mon vagin ne va pas s'agrandir et du coup, le pénis il va avoir du mal à rentrer. Donc ça pourrait me provoquer des douleurs. Mais il faut savoir que si j'ai des douleurs, mon partenaire sexuel aura des douleurs aussi si je ne suis pas lubrifiée. Donc les garçons, essayez de rassurer les filles et puis les filles, arrêtez de croire ce qu'on vous dit. Non, une première fois ne fait pas forcément mal. Et non, on n'est pas obligé de saigner.
Et du coup, est-ce que toutes les filles ont un hymen ?
Alors ça, grande question. Alors en fait, l'hymen est censé être là. Donc nous, en tant que sage-femme, à la naissance, on regarde si les petites filles ont un hymen qui ne recouvre pas la totalité de la vulve, puisqu'on sait très bien qu'une petite fille va devenir une adolescente qui aura ses règles. Donc si jamais il n'y avait pas d'ouverture au niveau du vagin, elle ne pourrait pas évacuer ses règles à l'adolescence. Donc on vérifie toujours qu'il y a un passage possible. Donc des fois, il y a des petits morceaux de membrane. L'hymen est une membrane souple qui sert strictement à rien. Et avec l'évolution de l'espèce, on a même tendance à voir qu'il y a plein de filles qui n'en ont pas d'hymen. Donc on ne va pas s'amuser à regarder si on en a un quand on est une fille. Il n'y a pas besoin de vérifier ça. Et même nous, on ne vérifie pas ça lors d'un examen gynéco. Enfin, moi, je n'ai pas souvenir de regarder spécifiquement pour voir si je vois un petit bout d'hymen. Donc on s'en fiche de l'hymen. En tout cas, il est associé à la virginité. Et ça m'embête parce que, en fait, l'hymen, à la base, c'était le dieu du mariage. Dans la mythologie, c'était le fils de Bacchus et de Vénus. Et en fait, ce rapport avec le dieu du mariage a fait qu'en fait, il y a un grand délire masculin autour de ça, sur le fait que la fille, pour prouver qu'elle est vierge, doit prouver qu'elle a un hymen intact. Et ça m'énerve, parce que les garçons, quand on veut savoir s'ils sont vierges, on leur pose la question. Une fille, quand on veut savoir si elle est vierge, on lui pose la question, en fait. C'est la même chose qu'un garçon.
À partir de quelle fréquence est-on addict à la masturbation ?
Alors là, il n'y a pas de fréquence, hein, forcément, à l'adolescence. On parle de masturbation. Alors, on entend masturbation masculine, mais il faut savoir que les filles ont le droit de se masturber aussi. Ce qui devient compliqué, c'est quand la masturbation apprend le pas sur toutes les autres activités. C'est-à-dire, si à un moment donné, en cours, je suis en train de penser « Ah, mon Dieu, il faut que je me tripote. J'en ai besoin, sinon ça ne va pas, je suis obligée de sortir de cours. » Là, ce n'est pas normal. Par contre, le fait que je fasse ça dans ma chambre, tranquillement, que j'en ai besoin tous les jours à un moment donné, ça ne va pas être comme ça toute votre vie. Mais il y a des moments où les hormones font qu'on se masturbe pas mal de fois. Tant que vous n'êtes pas irrité, tant que vous faites pas, vous n'oubliez pas vos amis, vous n'oubliez pas les autres activités, ce n'est pas un comportement anormal. Il faut consulter si effectivement votre vie n'est basée que sur la masturbation, qu'on soit une fille ou un garçon, parce qu'a priori, il y a d'autres choses intéressantes dans la vie que la masturbation quand même.
Merci beaucoup. La grande peur de beaucoup de jeunes chez les lycéens, par exemple, comment sait-on si on a une torsion testiculaire ou une torsion ovarienne et que faire dans ce cas ?
Alors effectivement, la torsion testiculaire, ça intrigue toujours les garçons. Torsion des ovaires, j'ai pas idée que les filles soient très... Voilà, pose souvent la question, mais bon, on va y répondre quand même. Alors, la torsion testiculaire, ça voudrait dire que le testicule, il fait un petit tour sur lui-même et en fait, il va rester dans cette position, ce qui fait que les vaisseaux sanguins qui l'irriguent et tout ça vont être bloqués. Donc, évidemment, ça ne passe pas inaperçu. D'un seul coup, on a une vive douleur. On va avoir un testicule qui va gonfler. La douleur, elle est brutale, intense, elle continue. Et à force, votre testicule va devenir bleuté, voire noir. Et on a 6 heures pour agir. La réponse est toujours une réponse chirurgicale. On est obligé de vous opérer et de remettre en place le testicule. Alors, mesdemoiselles, attention, je sais que les garçons, des fois, sont un petit peu chiants et on a envie de se défendre et de leur mettre un coup de pied au niveau des testicules, sauf qu'une torsion peut être provoquée par un coup que l'on donne dans les testicules, par exemple. Mais le plus souvent, c'est plutôt chez les jeunes enfants qu'on va trouver une torsion testiculaire. Et puis, après, c'est la faute à pas de chance. Voilà, ça peut arriver, mais c'est quand même quelque chose de rare. Ce qui est encore plus rare, c'est la torsion des ovaires. Nos ovaires sont à l'intérieur, donc là, a priori, ce n'est pas un coup qui va faire qu'on va avoir l'ovaire qui va se tordre. Même principe, il va tourner sur lui-même, il ne va plus être irrigué, et le risque, en fait, c'est qu'il nécrose, hein, qu'il ne va pas être irrigué, on ne va plus pouvoir s'en servir, il ne pourra plus produire des ovules. Donc, pareil, il faut une opération le plus rapidement possible, et dans le même cas que le testicule, il y a toujours une douleur très, très importante, associée plus ou moins à des saignements, pour le coup. Et dans les deux cas, on va avoir des nausées, des vomissements, vraiment un mal-être incroyable. Donc là, c'est plutôt chez des femmes qui ont des problèmes d'ovaires, qui vont avoir des kystes aux ovaires, où ça va se produire. Mais c'est hyper rare, la torsion des ovaires, voilà, par rapport à la torsion testiculaire.
Donnez-moi un F, donnez-moi un T, donnez-moi un R, donnez-moi un FTR.
Forstin Radio. Forstin Radio, la radio qui fauche votre journée.